Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine de 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
Un vendredi qui va fermer la marche de cette semaine des 5 heures avant un nouvel élan, évidemment, sur une nouvelle semaine après le week-end. Bonsoir, mon cher Hugues.
The Neverending Story. Oui. Bonsoir, mon cher Rudy.
Oui, en revanche, nous ne sommes pas à Califourchon sur un torchon volant.
Comme
avec
dans le merveilleux
des
film de feu Wolfgang Petersen, L'histoire sans fin. Oh, mais qui je vois ?
Oui.
Julien Demeuze.
Oui. Qui est un peu notre Limahl. Qui chantait la chanson de Neverending Story.
Oui. C'est vrai qu'il y a un air de ressemblance.
Oui, oui.
Entre...
il a un petit côté cajagougou, mais il est de toutes les époques, Julien. On l'a précisé hier.
Oui,
c'est dingue. Il brouille les pistes.
Absolument.
Quelle fashion victime, ce Julien.
Est-ce que ça se présente bien du code dans le monde de la variété, la musique
J'ai pas grand-chose à raconter sur la jeune fille qui arrive, à part qu'il faut absolument l'écouter. Son nom d'artiste, c'est Vagabond. Elle est new-yorkaise, mais elle a une trentaine d'années.
Vagabond.
Oui. Même vagabond. New-yorkaise, mais jusqu'à ses 13 ans, elle est née et elle a vécu à Yaoundé au Cameroun. Donc elle arrive à l'âge de 13 ans à New York et c'est absolument le choc. Et donc la moitié de sa vie, elle l'a passée au Cameroun. L'autre moitié... à New York, et elle s'appelle Laetitia Tamco, et elle active un projet musical qui a pour nom Vagabond, dans lequel elle fait absolument tout. Elle écrit, elle compose, elle interprète, elle produit et elle joue de tous les instruments, et le résultat, je trouve, est absolument formidable et épatant. On va écouter un extrait de ce qu'elle produit, la chanson a pour nom You Know How, et c'est Vagabond. C'est déjà fini.
Ouais.
C'est formidable, non ?
Ah,
c'est
frais, hein.
Vous imaginez, vous êtes.
Moi, je trouve ça du frais tag-boom. Voilà. Il y a du tag-boom un peu frelaté, mais il y a du tag-boom.
Il y a un groove de malade. Mmh. Vous imaginez.
Oui. Vous dites groove, moi je dis tag-boom.
Vous êtes dans une maison de disques et il y a une fille qui prend rendez-vous, elle vient avec sa cassette ou son CD ou sa clé USB, j'en sais rien. Vous faites play, vous entendez ça, mais vous signez des deux mains. Hein.
Oui.
Ben voilà,
et quoi, elle n'est pas signée ?
Ben non, c'est une autoproduction.
Ah
voilà,
oui, elle n'est pas signée.
Non, sur Vagabond Musique, tant qu'à faire, voilà.
Et
il y a tout un album qui est absolument incroyable. Sorry I Haven't Called, et c'est Vagabond.
Elle n'a pas encore cassé sa tirelire pour venir présenter ça en Europe, non ?
Je n'ai pas trouvé de date, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé.
Ah,
donc on dit quoi ? Elle est Camerouno-New-Yorkaise
New Yorko-Camerounaise.
Enfin voilà.
New Yorko, c'est nouveau.
Voilà. Elle
New Yorko camerounaise.
Elle est hybride, quoi. Un peu thermique et un peu électrique.
Alors, du côté des plateformes, mon cher Rudy, vous êtes enquillé une série longue durée hier en évoquant From.
Oui.
Moi, j'ai été plutôt vers la nouveauté film. Et je vous avais...
Oui, parce que vous avez regardé un film de 3 heures qui vous a épuisé, vous nous avez expliqué hier.
Non,
donc,
mais du côté des plateformes...
Mais il a toutes les stratégies.
Non, mais du côté des plateformes, j'étais vers les films sportifs cette semaine-ci.
Et votre serviteur, qui a quand même regardé en pure perte, 10 fois 45 minutes pour dire n'y allez pas, la saison 2 est décevante. Non, je suis allé voir un film.
Et donc, toujours est-il que cette semaine-ci, c'était la théma film sportif. Je vous ai parlé de la Coupe du Monde des sans-abri avec Bill Nighy. Eh bien, un autre film sportif est arrivé, non pas sur Netflix, mais sur Amazon Prime. Et il a retenu mon attention parce que c'est la nouvelle réalisation de George Clooney. Ça s'intitule « Il ne joue pas dedans », ça s'intitule « The Boys in the Boat ». Donc, les garçons dans le bateau. Ça fait un peu trois hommes et... Trois hommes et un bateau. The Boys in the Boat, et c'est une fois de plus, based upon a true story. C'est quoi comme histoire? C'est donc une histoire sportive, et on est dans le monde de l'aviron. Ah, on est dans le monde de l'aviron, et en période, pendant, au début des années 30 aux USA, donc période de la Grande Dépression, après le krach économique de 1929, et on va suivre une équipe d'aviron qui dépend de l'université de Washington. Alors on pourrait croire richement doté, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ils sont, mais vraiment, les derniers de la liste face à des États qui sont beaucoup, beaucoup plus versés dans le domaine et beaucoup plus subsidiés, entre autres en Californie. Et donc, c'est une lutte d'abord intrinsèque entre différentes équipes de jeunes rameurs d'aviron de différents États et l'ambition de Washington de monter en puissance et d'essayer de se qualifier dans un championnat national. Et si la qualification est effective, eh bien, il y a la perspective des Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Mais évidemment, il faut d'abord la compétition intramuros au sein des USA pour voir quelle équipe va être choisie.
Dites, mais en fait, cet appétit de sport,
oui.
Vous ne seriez pas en train de candidater pour être commentateur à Paris pour les JO dans l'équipe Infosport?
Mais c'est-à-dire que je sais que les voyages au sein de l'équipe de sport, ils envoient plus de monde que pour des trucs comme le festival de Cannes ou quoi. Ouais. Tandis que le sport,
je suis spécialisé en sport de niche.
Les fléchettes n'ont pas de secret pour
mais
moi.
Vous avez vraiment
le bowling non
tous
plus.
Les tours après bah. Musique 3 maintenant Infosport.
Écoutez,
bientôt dans la tribune.
Ouais.
À côté de Stéphane Stricker,
oui,
qui doit sûrement être un facilitateur, un homme de cinéma qui va sans doute essayer de vous corrompre.
Mais donc, après le...
Je vous fais une place à la tribune si vous me faites une bonne review de mon prochain film.
Voilà.
Mais tout c'est clair.
Tout c'est clair. Donc après le mini-foot des sans-abri, voici les jeunes champions d'aviron dépendants des universités américaines dans The Boys in the Boat. Donc première partie spécifiquement américaine, deuxième partie internationale avec... Ben, ces Jeux Olympiques de sinistre mémoire, puisque c'était pendant la montée du Troisième Reich, avec la volonté de Hitler de montrer la suprématie allemande. Il faut bien dire que l'aspect politique n'est pas très 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 développé dans ce film, et ça aurait quand même être ni l'aspect politique ni finalement l'aspect économique. Il y a bien une allusion.
C'est une ode à la rame.
C'est une ode à l'esprit d'équipe. Hein. Je pense que d'ailleurs, le titre français, c'est du style « Il ne faisait qu'un » ou un truc comme ça.
Oui, il y a un type avec un porte-voix qui...
Des très très beaux porte-voix d'époque.
Oui.
J'ai eu envie, je me dis, si je peux en trouver comme ça pour la COD, évidemment, vous imaginez...
Choisissez votre film.
J'adore les porte-voix.
À vous de voir.
Les porte-voix vintage dans The Boys in the Boat sont formidables. Alors les acteurs, qui est-ce qu'il y a? Mais dans le rôle du coach, il y a l'excellent acteur australien Joel Edgerton.
Ah oui.
Qui a une gueule, hein, qui est vraiment très très bien, et qui repère une sélection drastique pour essayer de faire monter le niveau de cette sélection à Washington. Et alors, dans un des rôles principaux parmi les jeunes champions, il y a Callum Turner, qui est un type qu'on va revoir à peu près tout le temps, qui est dans la série dont on a parlé, la série de prestige de Spielberg, enfin... co-produite par Spielberg, Masters of the Air. Vous savez, les pilotes de bombardiers pendant la guerre, série série de prestige de Apple TV qui fleure bon le vieux cinéma d'antan. On en a parlé il y a quelques semaines. Eh bien, ceci fleure bon aussi le vieux cinéma d'antan. C'est-à-dire que visuellement, c'est absolument splendide. C'est bien simple. S'il y a une comparaison à faire, on a un peu l'impression d'être dans les chariots de feu, quoi. Sauf que les chariots de feu, c'était de la course à pied, mais on est dans le même esprit d'amitié virile, d'exaltation de l'effort et d'esprit d'équipe.
Avec des ralentis?
pas de ralenti et pas de musique de Vangelis, contrairement au Chariot de Feu, mais musique de l'habituel complice de George Clooney, à savoir Alexandre Desplat. Je ne sais pas quand il dort, lui, hein, parce que j'ai l'impression qu'il est tellement sollicité.
C'est comme Quentin Dupieux,
ouais,
que vous me signaliez
oui,
hier.
Qu'il va faire l'ouverture de Cannes.
Avec déjà un nouveau film.
Bah oui, bon. Quentin, oui, je tourne donc, je suis. Il y aura Raphaël Quénard dans son nouveau film. On est content pour lui. Raphaël Quénard qui va sûrement monter les marches de Cannes avec une jolie petite coiffure et qui va faire le show. Donc, The Boys in the Boat, c'est comment ? Mais c'est du vieux cinéma. C'est très regardable parce que, ma foi, c'est enlevé. Mais on se dit, finalement, George Clooney, réalisateur, c'est une sorte d'employé du mois, quoi. C'est un type qui touche à peu près à tous les genres, avec une sorte de savoir-faire, mais on se dit, est-ce que... Enfin, on est en train de réaliser, c'est quand même déjà son 9e film derrière la caméra. Il n'a pas d'univers, quoi. En fait, il a juste envie de faire chaque fois un peu du à la manière de... c'est une sorte de copiste, comme ça.
Comme un type qui fera un album de reprise.
Voilà, parce qu'il s'emmerde un peu et il fait un album de reprise. Donc ici, c'est tiens, je ferais bien un joli film sportif basé dans les années 30. Avant ça, il a fait une sorte de drame aussi sur plateforme, de drame de l'alcoolisme, enfin avec Ben Affleck. Il a fait... en fait, on a découvert que c'était une sorte de néoclassique quand il a fait The Monuments Men, vous vous souvenez ?
Ces types qui recherchent
les œuvres d'art volées.
Spoilées par les nazis.
Voilà. Mmh. Et c'était vraiment du Hollywood à l'ancienne.
Il y avait du jardin, là, non ?
Il y avait du jardin, oui, tout à fait. Et il y avait Hugh Bonneville. C'est vraiment du cinéma à l'ancienne, bien foutu, mais qui n'apporte rien.
Manifestement, il aime les uniformes. Mmh. Il aime les petites tenues sportives.
Oui, il est... Crypto-gay ?
Écoute, George, si tu nous écoutes, je voudrais pas.
Vous avez failli le dire.
Il y a quand même quelque chose.
Il y a quelque chose. Mais voilà, donc de temps en temps, il dit à sa femme Amal et à ses deux jumeaux, bon, là, je vais quand même aller un peu retrouver des potes. Et donc.
Ça aussi.
Il fait des films avec les
Combien
potes.
De mecs partent pas en tournée parce qu'au moins ça leur fait des vacances. Ils n'ont rien à faire, on leur sert à bouffer, on leur lave leur linge, on les transporte. Ils ont juste à faire un peu le guignol le soir devant des gens qui applaudissent. Donc c'est tout bénef. Quoi. Ils ne doivent pas se lever pour aller conduire les enfants à l'école. Ils ne doivent pas s'inquiéter de ce qu'il y a dans le frigo.
Voilà, moi je crois que Georges...
Ils envoient le chèque à la fin de la tournée, c'est réglé.
Fait, moi je crois que Georges, il part en tournage un peu, il part en goguette. Et en fait, en plus... Il fait un deal avec des plateformes. Il doit même pas se soucier de trouver un distributeur, de commencer à faire une tournée promo parce qu'Amal dit, écoute,
hashtag
pas
je
tourner,
suis
pas tourner.
Bah ouais.
Voilà, c'est tout. Donc ça s'appelle The Boys in the Boat. C'est très très beau. Et alors ceux qui aiment bien le vernis de bateau, oh. Ça devrait être sponsorisé par Amerite ou V33, parce que le vernis de bateau, parce qu'évidemment le type qui leur fait les barques d'aviron, qui accompagne et qui essaye de faire la barque la plus rapide, et alors on a des petites scènes d'atelier
de ponçage, comme ça farte, comme les skis mais version coque.
Magnifique. Donc voilà,
excellent.
C'est tout à fait regardable et tout à fait dispensable aussi.
Pour les fans d'aviron.
C'est une des grandes nouveautés de la plateforme grand n'importe quoi, à savoir Amazon Prime. Voilà, The Boys in the Boat, c'est arrivé il y a quelques jours.
Le Amazon Prime devient une sorte de référence métaphysique aussi. On est dans quelque chose qui nous dépasse.
Attendez, il y a des trucs français, parce qu'il y a un responsable des comédies françaises, enfin responsable.
Un irresponsable.
Il y a un truc avec Alice Paul. Enfin,
j'ai vu.
Alice Paul, qui était une copine de Danny Boone, mais qui maintenant a été remplacée par une nouvelle copine. Et donc, qui doit.
À l'époque, vous disiez Poupousse.
Oui, Poupousse.
Je vois que les temps ont changé, le vocabulaire évolue. Il est de plus en plus époque compatible.
Oui. Ah oui.
Et c'est très bien ainsi.
Bien. Poupousse, c'était charmant. Bon, oui. Qu'est-ce qu'on est ?
Bah, je vais compenser avec une immense icône queer.
Ah.
Hein, je vais compenser parce que je dois un peu passer le torchon après vous. Vous avez fait partout là. Donc aux États-Unis pour l'instant.
Oui, mais ça vous a pas déplu.
Non, j'aimais bien. J'aimais bien. Donc aux États-Unis pour l'instant se termine l'immense tournée des grands, j'allais dire des stades, non, mais des grands amphithéâtres de Olivia Rodrigo. Et elle a emmené avec elle en première partie, une première partie qui est soignée, hein, donc ça veut dire avec des lumières, avec un bon son, avec du temps pour s'installer. Chapelle Rouen, mon idole avec Blue the Tiger. Mais pour la tournée européenne qui démarre très bientôt et qui sera pour deux soirs au Sport Palace les 21 et 22 mai, c'est déjà complet. Ça ne sera pas Chapelle Rouen qui aura sa propre tournée en Europe. Elle emmène une autre chanteuse en première partie pour la partie européenne de sa tournée mondiale. Et il s'agit de Rémi Wolf. Alors Rémi Wolf, comment vous expliquer ? Là encore, on a affaire à une espèce d'icône queer absolue. C'est un peu la même bande que Chapelle Rouen, que Conan Gray, que Olivia Rodrigo. Elle arrive avec un nouvel album, ça sera le deuxième. Je pense qu'avec celui-ci, elle va passer à une vitesse supérieure. Cette Rémi Wolf, qui se définit comme non-genrée, voilà, mais qui a vraiment un profil assez particulier et un univers très original et spécifique qu'elle l'emmènera donc
quand c'est non genré, c'est poupousse mais avec un S au bout sans E.
Non, avec C, c'est dit.
Oui, avec
poupousse.
D'accord. Rémi Wolf.
Rémi Wolf. L'album arrive et de cet album, on peut déjà écouter cette chanson qui a pour nom Cinderella.
Donc, première partie d'Olivia Rodrigo le 21 et le 22 mai au Sport Palace.
Mais oui.
C'est ça, hein ?
Oui.
Ah, vous voyez que je suis.
Oui.
Hein ? Bon. Je suis pas uniquement à m'occuper de la vie privée de George, moi.
Oui,
je m'intéresse à tout, y compris à ce que vous avez regardé.
Oui. Alors, je dois dire que c'est un peu. Presque par hasard, je me suis lancé, c'est le cas de le dire, sur un malentendu.
Ouais.
Parce que j'ai vu une image et je me suis dit, tiens, une série anglo-saxonne avec Noémie Merlan. Parce que l'actrice a un physique...
penser à Noémie Merlan.
Oui, j'ai cru distraitement que c'était Noémie Merlan, pour m'apercevoir très vite que ce n'était pas elle. Mais je me suis dit, bon... Lançons-nous, cette série a l'air sympa, c'est en costume, ça se passe au 18e, voilà, en Angleterre, avec des tricornes, des chevaux, des habits. Allons-y.
Noémie Merlan, pour l'instant, elle est sans habits. Parce qu'elle tourne le remake d'Emmanuel, version féministe, réalisée par Audrey Diwan. Féministe. Hein,
Mais je ne me trompe pas en disant qu'elle tourne aussi pour le cinéma anglo-saxon.
Ah oui, tout à fait. Elle était formidablement l'assistante de Kate Blanchett dans Tar, où elle était tout à fait parfaite, on est bien d'accord.
Donc, erreur de casting de ma part, mais pas erreur de casting de la part des producteurs de cette série, qui a pour nom, sur Disney+, Nell Rebel. En anglais, c'est Renegade Nell. 8 épisodes de 50 minutes. Alors, ça démarre très très fort. Et je me suis dit, après un épisode, mais c'est quand même vachement bien, très original. L'approche est à la fois drôle, c'est curieux, c'est inventif. Mais qui est derrière, avant d'aller plus loin? Je me suis dit, c'est pas possible, on a des gens qui ont un savoir-faire derrière cette série. Eh bien oui, elle est, cette série, écrite et produite et supervisée, donc showrunner, par Sally Wainwright, qui est la scénariste à qui on doit la formidable série policière BBC Happy Valley.
Ah oui.
Dont on a beaucoup parlé ici.
Oui, formidable réussite, on est bien d'accord.
Ici, on est dans tout à fait autre chose, mais assez proche, je vais y venir, de l'univers de Sally Wainwright. On est en Angleterre en 1705.
On a déjà de nouveau encore une héroïne.
On a une héroïne, voilà, c'est très très important.
Oui, parce que dans Happy Valley, évidemment, c'était cette femme flic qui était inoubliable. Voilà.
Femme, mère et grand-mère, ça avait son importance dans la série. Donc on suit ici la cavale de Nelly Jackson, dite Nell Jackson, qui est une femme accusée d'un meurtre qu'elle n'a pas commis et qui se retrouve forcée, pour survivre, à devenir une sorte de bandit des grands chemins. Voilà, c'est une femme, mais elle est courageuse, débrouillarde dans un monde d'hommes. On y vient, effectivement, c'est important, c'est une femme. Et elle devient, un peu malgré elle, l'une des bandits, on dit bandite, non une de...
Moi j'aime bien bandite, ça ne se dit pas, mais voilà. On va le dire.
Une des bandites les plus redoutées des grands chemins d'Angleterre.
Une Robin des Bois.
Exactement. C'est une Robin des Bois. Elle attaque diligence, elle attaque carrosse et tout ce qu'elle arrive à dépouiller, à voler des propriétaires riches. Elle en garde une partie parce qu'elle en a besoin, mais surtout elle redistribue beaucoup. Et donc vous avez raison, on a un peu affaire à une Robin des Bois. Mais voilà, il y a aussi un aspect fantastique à cette série d'aventures historiques, c'est qu'elle va croiser le chemin de Billy Blind, qui est une sorte de petit esprit, un Jiminy Cricket, quoi, esprit de la forêt, qui va l'aider dans sa quête et dans sa course à travers cette fuite, puisqu'elle est recherchée par la police pour ce meurtre qu'elle n'a pas commis. Mmh. Il va la doter d'un super pouvoir quasi surnaturel qui va lui donner des habiletés absolument exceptionnelles. Voilà. Donc on est dans cette sorte de fresque d'aventure historique en costume avec des chevaux. On a du fantastique, on a un peu d'héroïque fantasy également. Donc il y a de l'action, il y a une sorte de grammaire KPDP qu'on pouvait retrouver dans des Fanfan la Tulipe ou autres mandrins.
Voilà.
Sauf que ici on a affaire à une femme. Et pour ce rôle de Nell Jackson, la showrunner Sally Wainwright est allée chercher Louisa Harland, qui a un physique assez androgyne, qui peut faire penser parfois au physique de Noémie Merlant, mais surtout, elle est formidable et elle s'est faite connaître à travers une série, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'y jeter un œil sur Netflix, une série irlandaise avec des collégiennes
Derry Girls.
C'est exactement, c'est une des Derry Girls de cette série irlandaise série courte et humoristique et assez trash.
Oui.
Et ici, elle trouve vraiment un personnage à la mesure de son interprétation complètement kaléidoscope parce qu'elle change de registre comme elle change de costume dans cette série. Et l'exploration du genre n'est pas une première pour Sally Wainwright, puisqu'on a affaire ici à un personnage qui a plutôt une attitude masculine avec un physique androgyne, alors qu'elle est une fille, puisque Sally Wainwright avait déjà exploré un peu cet univers à travers une série qui s'appelle Gentleman Jack. Deux saisons où Susan Jones, formidable actrice anglaise, interprétait Anne Lister, une figure féministe de la littérature anglaise du 18e, qui avait écrit énormément de choses, mais une partie de ses écrits était codée et un peu à double sens parce qu'elle documentait de façon assez précise, mais entre les lignes, la vie d'une femme lesbienne au 19e.
Mmh. Mais ça, ce n'est pas trouvable facilement.
C'est pas trouvable.
HBO et ça n'a pas été repris sur BTV.
Et donc, c'est un peu, de nouveau, c'est un personnage typé dans ce type de genre,
oui,
d'attitude
mais
que Sally Wainwright.
Sont des personnages féminins mavericks, quoi. Totalement marginaux. On sent qu'elle creuse un sillon de manière très, très... très pertinente, Sally Wainwright. Hein. Il y a un fil conducteur.
Ici,
quoi.
Cette Nell Rebelle est évidemment un personnage de fantaisie inventée de toutes pièces, aucun rapport avec un personnage historique qu'elle aurait voulu remettre en avant-plan. Voilà, c'est un récit d'action, d'aventure. C'est très très drôle. Beaucoup de scènes de combat. Parfois, ça ressemble même un peu à une comédie musicale parce que les choses, il y a du mystère, il y a de l'ésotérisme.
Ah, ça donne très, très, très envie.
C'est très 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 richement imaginé et parfaitement mis en scène et filmé et chorégraphié.
Et c'est conclusif, ces 8 épisodes ?
Non, c'est pas conclusif.
Mais c'est pas trop frustrant.
C'est pas frustrant du tout. On sent qu'on est dans quelque chose qui peut encore se développer, même si on a des réponses à beaucoup d'énigmes à la fin de la saison 1. Ça s'appelle Nell Rebelle, Renegade Nell en anglais. C'est sur Disney+ et c'est signé par la showrunneuse de Happy Valley, avec Louisa Harland, qui est formidable.
C'est plutôt tout public, en tout cas.
Il y a des choses qui font un petit peu peur. Mais voilà, qu'est-ce qui fait peur aux enfants aujourd'hui.
Vous savez, c'est déjà adolescent, quoi, je veux dire, clairement aussi.
Oui, c'est adolescent, peut-être pas petits-enfants. Disons que s'il y a des scènes qui font peur, c'est plutôt à mettre en parallèle avec certaines scènes qui font peur chez Harry Potter. Ça peut être effrayant pour des plus petits, impressionnables. Okay. Mais ça reste quand même quelque chose de tout familial. À fait fréquent, familial et fréquentable. Je dirais, pour les plus petits, visionnage accompagné.
Oui. Voilà. Ou alors
parce que les méchants font vraiment peur.
Les parents mettent les mains devant les yeux pour les scènes difficiles.
Oui, c'est exact.
Voilà.
C'est exact.
Voilà.
Poursuivre.
C'est ce qui a créé ma vocation. Hein.
Ah oui.
D'avoir les mains devant les yeux quand c'était des scènes.
Et vous essayez d'écarter les doigts. Des scènes érotiques, des scènes de
baisers. C'était pas des mains devant les yeux, c'était ma maman qui passait avec sa jupe devant la télévision.
Ah oui.
Donc tout le monde loupait les bonnes scènes. C'est un véritable sacrifice.
Moi, c'était pas ça. C'était Angélique. On disait, maintenant, tu montes.
Oui.
Je dis, ok. Et donc, ce que je faisais, c'est que je restais dans l'escalier et j'écoutais. Le film.
Il y a parfois la méthode du trou de serrure. Si le trou de serrure est bien placé face au téléviseur, on peut encore espérer quelque chose.
Et des années plus tard, j'ai pu enfin voir ce que j'écoutais. Je me suis dit,
quoi ?
C'est ça ?
C'est ça.
C'était beaucoup mieux dans mon imagination.
Ouais. Enfin, il y a quand même des scènes tout à fait historiquement très importantes. Véronique Jeannot dans Paul et Virginie.
Oui, ça a construit beaucoup de... Mal
de vocation
de notre
et de vocation. De vocation de critique cinéma.
Oui,
et bien maintenant, je verrai enfin tout.
Et moi, comme je
du
faisais,
début, le milieu et la fin.
Je ne faisais que écouter, je ne me suis intéressé qu'au son.
Voilà. Bon, c'était une intéressante séance de psychanalyse. Et qu'écoutons-nous maintenant ?
Mais écoutez, dans ce monde absolument improbable, étonnant, ou ouvert à énormément de possibilités, je voulais juste signaler que, en toute discrétion et sans tapage, Miyawaki, donc cette japonaise qui vit en Californie et qui se produit sous le nom de Mitsuki, va, mine de rien, remplir...
Mais c'est une vraie ou c'est une intelligence artificielle ?
C'est une vraie.
Ça, c'est du vrai.
Ah oui,
d'accord.
Vous allez l'entendre. Non seulement c'est vrai, elle est vraie et en plus elle est authentique. C'est ce qui fait, j'imagine, son succès. Elle va remplir, sans tapage, 2 cirques royales les 14 et 15 mai prochains. Elle s'appelle Mitsuki et donc on lui souhaite déjà la bienvenue et aussi bon concert à ceux qui iront la voir puisque c'est complet. Mitsuki, no AI. Vous l'avez entendu.
Alors, on a évoqué Quentin Dupieux qui va faire l'ouverture du festival de
Cannes. Ils sont plusieurs, c'est des triplés. C'est pas possible de faire autant de choses.
Je pense qu'il dort.
Je crois qu'il fait un concours avec nous. C'est-à-dire, il veut tourner plus vite qu'on visionne. Et on voit qui gagne à l'arrivée.
Voilà. Et donc, la semaine prochaine, le festival de Cannes dévoilera les heureux élus, sa sélection. On imagine bien que le cinéma belge est en effervescence, qu'on va se demander qui va éventuellement se retrouver dans quelle sélection. Et je profite de l'occasion pour signaler un ouvrage très très touffu qui s'intitule « La dame qui osa le cinéma belge ». C'est une biographie. Cette dame est toujours de ce monde.
Vous m'en parlez en off depuis des semaines.
Elle s'appelle Jacqueline Pierreux. Elle a 90 ans aujourd'hui. On la salue puisqu'elle a travaillé entre autres dans sa riche carrière à la RTBF. Mais c'est un bouquin qui est signé Claire Dillet et Micheline Hardy. Et ce bouquin, justement, retrace... J'ai envie de dire toute la préhistoire du cinéma belge, parce qu'on parle souvent justement, Frère Dardenne et avant ça, Jaco et ça. Mais en fait, Jacqueline Pierreux...
Des gens ont préparé le terrain, ont mâché la besogne.
Et c'est vraiment un livre d'histoire, parce qu'à travers le destin de Jacqueline Pierreux, c'est hallucinant. En fait, elle est une des premières étudiantes. D'abord, dans sa première vie, elle se destine quelque part à être femme au foyer, et très vite, elle se rend compte qu'elle n'est pas faite pour ça, qu'elle a envie de vivre sa vie de façon indépendante. Elle divorce toute jeune, elle a grandi, elle s'est faite toute seule parce que son père est disparu pendant la guerre, sa maman travaillait donc l'a placée en pension. Bref, c'est une petite femme, un petit bout de femme, comme on dit, très très énergique, et qui apprend à se... comme on dirait vulgairement, à se démerder dans la vie assez rapidement. Et qui sera une des étudiantes à la naissance de l'INSAS. Et à la sortie de cette école de cinéma, elle se rend compte qu'elle est de toute façon plus faite pour organiser, qu'elle est plus... Oui, qu'elle a plus une mentalité et un tempérament de productrice et d'assistante de cinéaste que de réalisatrice. Et elle se dit aussi, mais... tous ces gens qui sortent d'école de cinéma, qu'est-ce qu'on leur promet comme futur ? En fait, rien du tout, à part éventuellement entrer comme caméraman à la télévision.
Ah il y a oui, pas si, d'industrie. Si l'industrie n'est pas derrière.
Voilà, il y a pas de... Et donc, elle va créer sa propre boîte de production, Pierre Film, pour accompagner des courts-métrages et des longs-métrages. Et c'est elle qui sera à la manœuvre derrière un des plus grands succès populaires du cinéma belge, à savoir Home Sweet Home de Benoît Lamy. Où il y avait des acteurs français, où il y avait Jacques Brun et Claude Jeanne, mais où il y avait énormément d'acteurs belges aussi, Marcel Jauss, Jacques Lippe, etc., etc. Et donc, c'est un vrai succès populaire des années 70, parce qu'en fait, ce que définit bien le bouquin, c'est que Jacqueline Pierreux, ce n'est pas une intellectuelle. C'est-à-dire qu'elle aime, elle a grandi de façon comme autodidacte, en allant au cinéma, et elle a envie de faire du cinéma populaire, dans le noble sens du terme, mais vraiment qui rencontre son public. Et elle va essayer, elle va avoir des complicités avec des Benoît Lamy qui, par après, feront La vie est belle, bon, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde, mais qui essayera, qui partagera cette philosophie du cinéma. Et elle va, pendant plusieurs années, tout en accompagnant aussi des cinéastes de l'autre côté de la frontière linguistique, puisqu'elle a même accompagné des Harry Kummel, à qui on devait des Mal Pertuis, et qui était un cinéaste absolument fantasque.
Vous l'avez connu
comme professeur. Et avec Harry Kummel, elle va tourner aussi. Elle va également l'aider à réaliser ses projets. On peut dire qu'elle est aussi à la manœuvre derrière le premier documentaire sur Hergé qui était Moi Tintin de Gérard Vallée et Henri Rouen. Donc voilà, ça c'est la première partie de sa carrière dans les années 70. Et puis elle est exsangue parce qu'il y a tellement peu d'aide, il y a tellement peu d'infrastructures qu'elle doit presque y aller de sa poche. Et donc elle va, dans la seconde partie de sa carrière, arriver comme productrice déléguée à l'RTBF. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est justement... faire en sorte, il va se créer ce qu'on appelle des accords cadres. Les accords cadres, c'est l'obligation pour la télévision, les chaînes publiques, d'aider la production cinématographique.
Aujourd'hui, ça paraît normal.
Et alors, moi, je me souviens très très bien, parce que vous vous souvenez d'Harry Kummel, moi, je me souviens, les années 80, quand je suis entré à l'RTB, elle était avec son fanion pour dire « je fais une projection privée ici, au sein de la maison, du maître de musique ». Personne n'en avait rien à faire parce que José Van Damme n'était pas considéré comme un acteur. Gérard Corbiot était un réalisateur de documentaires musicaux, mais pas réalisateur de fiction. Philippe Voltaire n'était pas une star. Donc, elle arrivait avec ce projet. On se disait, oui, enfin, ça va intéresser le public du Reine Elisabeth.
Moi, je me souviens, des gens disaient, il y aura des sandwichs. Je viendrai bien s'il y a des sandwichs.
Et donc, elle a porté à bout de bras ce projet du maître de musique dans les années 80, mais qui va être un smash, mais absolu, et qui est du cinéma populaire, qui a quelque part vulgarisé une certaine musique classique et des airs d'opéra à une période où c'était pas à la mode, va certainement faire beaucoup pour la popularité de José Van Damme. Et donc le film va être un smash, mais colossal, jusqu'à aboutir, on l'a oublié, mais c'est ce que rappelle bien des chapitres de ce bouquin, jusqu'à aboutir à une nomination à l'Oscar du meilleur film étranger, quand même, alors que c'était une production au départ, initiée par la RTBF. Donc, il y a tous ces éléments-là. Elle va aussi produire le premier film vraiment de fiction des Frères Dardenne, Je pense à vous, qui est un flop absolu parce que les frères Dardenne, de leur propre aveu, se laissent déborder parce qu'ils n'ont pas la maîtrise du casting. Il y a Robin Renucci qui joue un ouvrier d'Herstal, on n'y croit pas deux secondes. Et fort de ça, mais elle sent bien que les frères Dardenne en ont sous le capot. Mais voilà, et après ça va arriver la promesse. Et en fait, elle va prendre sa retraite juste au moment où ça décolle, c'est-à-dire la Palme d'Or pour Rosetta. Mais elle a au moins posé absolument...
Comme souvent
tout.
Les pionniers, voilà. Et les pionnières.
Ouais. Voilà, elle n'a pas forcément récolté tous les fruits de son travail, mais on croise dans ce bouquin évidemment énormément de personnalités et ça permet de... J'ai envie de dire, tous ceux qui s'intéressent vraiment de près à l'histoire du cinéma belge, ce bouquin est intéressant. Par contre, le bémol, ça c'est pour lancer des fleurs par rapport au sujet et au sérieux de l'enquête, il aurait fallu un éditeur, dans le sens où un éditeur qui dit « ça, c'est très bien les amis, mais ça n'intéresse pas le grand public ». C'est-à-dire qu'on a tout un chapitre sur, par exemple, Paul Damblon, qui était responsable des émissions scientifiques et qui l'a aidé, avec lequel elle a fait des courts-métrages didactiques pour mettre des sous dans la marmite. Ça mérite 3 pages, mais ça ne mérite pas un chapitre complet. Donc, j'ai envie de dire, le diable se niche dans les détails et il y a des chapitres qui sont beaucoup, beaucoup trop détaillés sur des choses qui concernent vraiment les professionnels de la profession. Mais à côté de ça, on rend aussi justice à, par exemple, quelqu'un qui a disparu récemment et qui était un réalisateur important, qui était Pierre Joassin. Pierre Joassin oui. a fait gros cœur avec Bernard Lecoq, qui a vraiment lancé la carrière de Bernard Lecoq. Le film devait aboutir au cinéma. Finalement, il a abouti à la télévision parce que les coproducteurs français disaient qu'il n'y a pas assez de tête de gondole, de tête d'affiche. Bernard Lecoq n'était pas suffisamment porteur à l'époque. Et ça a lancé la carrière télévisuelle de Bernard Lecoq. Voilà. Et ça rend justice aussi à, voilà, certains.
À des gens qui ont déplacé les meubles. Hein.
Qui ont, voilà.
Des déménageurs, mais voilà. Qui n'ont pas profité de l'espace aménagé.
Voilà. Donc ça s'appelle La Dame qui osa le cinéma belge. C'est très touffu. Parfois, on se perd dans des détails.
Ça documente une époque qui manquait peut-être
Et donc,
qui était dans le flou. Hein,
malgré tout, c'est vachement intéressant. Et ça permet de comprendre structurellement les forces en présence et aussi la différence entre la Flandre, la Franconie. Voilà, donc c'est pas une lecture du samedi soir, mais c'est un document qui a vraiment le mérite d'exister. Il est publié à l'Harmattan et donc il est disponible effectivement depuis déjà quelques semaines, mais je cherchais la bonne occasion pour vous en parler et donc ça s'intitule
Eh bien, vous venez
La
de
Dame,
la
Dame qui osa le cinéma belge. Et un grand, grand, grand bonjour à Jacqueline Pierreux qui est encore bon pied, bon oeil et qui doit observer l'évolution du cinéma belge avec une certaine
mais le podcast.
Voilà. On va lui dire.
Donc je remets le GPS.
Ouais.
Direction Allemagne avec Christian Löffler. Alors Christian Löffler, c'est un...
Christian Löffler.
C'est un artiste électro, mais plutôt à chercher du côté... Olafur Arnalds. On est plutôt dans de l'électro introspectif.
Voilà.
Planant. Il est souvent en concert chez nous, on l'a vu à l'ancienne Belgique, à Beaux-Arts, où il était là vraiment dans son élément. Et la plupart du temps, ce sont des concerts instrumentaux. Mais là, il arrive avec un nouvel album sur lequel il a greffé quelques voix. Et très curieusement, pour la chanson qui s'appelle Portals et qui drive le nouvel album et un concert qui aura lieu le 20 novembre à la Madeleine, il a invité une voix qui est celle de Mowgli. Mowgli, c'est le pseudonyme de Selima Taibbi, qui est une chanteuse allemande, mais découverte par le public allemand dans The Voice Germany 2012.
Ah ouais.
Voilà, donc un artiste quand même, compositeur exigeant, a trouvé son bonheur parmi une candidate de The Voice d'il y a plus de 10 ans. Et je trouvais que la réunion, en tout cas la symbiose entre les deux, et puisque l'addition des talents fonctionne, était quand même à signaler. C'est Christian, vous dites Christian Löffler. Il sera en novembre prochain à la Madeleine en concert. Le voici avec Portal.
planant comme j'aime. C'est du planant trépidant.
C'est pas que planant, non, c'est aussi...
C'est du planant rythmé.
C'est enfin, aussi groovy.
Enfin, c'est de l'aérien. Voilà,
c'est de l'aérien.
Plus que planant, aérien.
Ça groove, mais sur coussin.
Oui, oui, oui.
Christian Lefleur.
Bon.
Avec Mowgli.
Beaucoup
Il
de choses aujourd'hui.
Il est bientôt l'heure de se quitter.
Ah oui, on va bientôt devoir remettre de l'encre dans la cartouche, oui, du charbon
dans la
buse.
Ouais,
parce
ouais,
que exact. Là, on a un peu épuisé toutes nos cartouches. Mais...
Presque toutes. Ah. On va saluer Julien Demeuse qui nous a accompagnés encore ce soir.
Ouais.
Merci mon cher Hugues, on se dit à lundi.
Très volontiers.
J'ai envie qu'on se quitte avec encore un parfum d'Allemagne.
Ah.
Oui, avec Tino Piontek, l'ami Tino.
Ah, Tino.
Et Marius Gobert, plus connus l'un et l'autre sous le nom de Purple Disco Machine.
Ah, mais voilà, c'est ça.
Voilà,
oui.
qui collabore avec son compatriote Roosevelt. C'est un nouveau titre qui arrive et qui annonce évidemment les concerts que je ne saurais manquer de vous rappeler. Concert de Purple Disco Machine qui sera à l'Abbé le 31 octobre et à l'OM de Serein.
Ah ouais.
Le 30 octobre.
Ah ouais, ouais, ouais.
Donc Purple Disco Machine avec Roosevelt pour Higher Ground, j'allais dire Higher Groove, parce que j'étais dans l'esprit groove, voilà. Mais ça groove, hein, cette Higher Ground. Donc l'ami Tino et l'ami Marius, donc un bon parfum d'Allemagne pour se quitter. On se dit à lundi.
Chouette.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.